5h sur Europe.
Quand on rentre en école d'aide-soignante, on nous demande que nos vaccinations soient à jour. À partir du moment où on a accepté ce deal, on l'a accepté pour tout le long de notre carrière.
La vaccination des soignants, nouvel enjeu qui monte. Trop peu d'entre eux ont fait la démarche de se protéger alors qu'ils sont en contact avec des personnes à risque. Le retour dans l'actualité de l'affaire Steve Maiacanisso, jeune homme mort noyé après être tombé dans la Loire à Nantes le soir de la fête de la musique il y a 2 ans. Une intervention police est finalement en cause. Et puis c'est parti pour l'élection présidentielle en Iran. Ils étaient 7 candidats hier, ils ne sont plus que 4 après des désistements. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une demi-heure. Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Téhéran.
À suivre les sports, notre pressing du matin. Et puis nous serons à Rungis, au pavillon des fruits et légumes, pour les doigts dans l'assiette. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils sont à peine plus de la moitié à avoir reçu au moins une dose de vaccin. Les soignants en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée sont donc proportionnellement moins protégés que l'ensemble de la population adulte. 55% de vaccinés parmi eux, 60% au total parmi les plus de 18 ans en France. Situation que le ministre Olivier Véran n'admet pas. D'ailleurs, si ce chiffre ne progresse pas d'ici la fin de l'été, il envisage de rendre obligatoire la vaccination auprès de ceux qui travaillent auprès des personnes âgées. Florence, aide-soignante dans un EHPAD de Bretagne, y est favorable.
On travaille avec des publics qui peuvent être fragilisés par la maladie, qui ont des pathologies, qui ont des comorbidités, qui les rendent plus fragiles justement. Donc c'est aussi par nous que passe la protection. Quand on rentre en école d'aide-soignante ou d'infirmière, on nous demande que nos vaccinations soient à jour et on vérifie avant même d'entrer à l'école que toutes les vaccinations obligatoires sont faites avec l'hépatite B. À partir du moment où on a accepté ce deal, quand on est entré en école de soignants, ça veut dire qu'on l'a accepté pour tout le long de notre carrière. On a accepté de se protéger et de protéger les patients et les résidents dont on aura la prise en soin en fait entre nos mains. Ce qui vaut pour l'hépatite B, ce qui vaut pour toutes les maladies en fait qui sont transmissibles justement aux patients, vaut également pour le Covid, étant donné que c'est une maladie très contagieuse et potentiellement mortelle.
Florence, qui témoigne au micro Europe 1 de Diane Berger.
À la une aussi ce matin, il y a cette affaire qui avait agité l'été 2019, la mort par noyade d'un jeune homme de 24 ans à Nantes.
Il s'appelait Steve Maiacanisso, son corps avait été repêché dans la Loire 1 mois après avoir disparu le soir de la fête de la musique. Il était tombé dans le fleuve et ne savait pas nager. Au cœur de l'enquête, il y avait cette intervention de la police tard dans la nuit pour disperser les fêtards. Charles Guyard, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nantes. Une nouvelle expertise affirme que c'est bien à ce moment-là que le jeune homme est tombé à l'eau.
Oui, et tout repose sur une question d'horaire. Dans son rapport de juillet 2019, un mois après le drame, l'IGPN concluait que l'intervention des forces de l'ordre survenue entre 4h24 et 4h52 cette nuit-là n'avait pas pu provoquer la noyade de Steve puisque son portable était déjà inactif à 3h16, les enquêteurs s'appuyant alors sur la facture du téléphone. Or, l'expertise plus poussée de l'appareil dévoilée hier établit que celui-ci a finalement cessé d'émettre à 4h39, donc au moment de la charge des policiers, une nouvelle chronologie qui interroge l'avocate de la famille Maiacanisso, maître Cécile de Oliveira.
L'analyse de sa facturation détaillée permettait de voir quel était le dernier message émis. Ce n'était absolument pas la question qu'il fallait se poser. Le rapport de l'IGPN était un rapport rédigé à la hâte et ressemblait un peu à une commande qui visait peut-être à démontrer une absence de lien entre la mort tragique de Steve Maiacanisso et l'intervention policière. C'est le Premier ministre lui-même qui en avait donné connaissance en présence du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, très officiellement.
Reste une ultime zone d'ombre dans laquelle la défense pourrait s'engouffrer, c'est l'endroit précis de la chute. La géolocalisation du téléphone s'avérant techniquement impossible.
Charles Guyard à Nantes pour Europe 1.
Il est 5h04 sur Europe 1. Il venait défendre la lecture et l'ériger en grande cause nationale. Emmanuel Macron était hier dans les Hauts-de-France.
Une visite qui a agacé le président de région Xavier Bertrand, candidat à ses réélections. Premier tour du scrutin dans 2 jours. Mais pour Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 qui a suivi cette visite d'Emmanuel Macron, ce n'est pas l'enjeu régional qui animait le président hier.
Des mains tendues, des selfies et un Emmanuel Macron qui profite de sa liberté retrouvée au contact.
À la fois l'éducation, la culture, la langue française, pour venir aussi au...
Officiellement, pas de politique. Et bien qu'il soit dans les Hauts-de-France, le président prend soin de ne pas parler des régionales. Aucune allusion à la liste LREM. Dans ce Tour de France, Emmanuel Macron, comme sur un petit nuage, profite et prend tous les compliments qu'il y a à prendre. Dans ses bains de foule, depuis l'étape de Valence, on note le retour de sa femme, Brigitte. À ses côtés, elle lui tient le bras, parfois fébrilement. Elle ne semble pas toujours très rassurée depuis l'épisode de la gifle, mais cette présence fut néanmoins très appréciée hier soir. S'il manœuvre en coulisses pour torpiller la droite et combattre le RN, Emmanuel Macron n'utilise pas ce Tour de France pour faire campagne pour les régionales, non. Il fait avant tout campagne pour lui-même.
Jean-Rémy
Villers-Cotterêts, Jean-Rémy Baudeau, Europe 1.
Et l'autre élection que nous allons suivre se passe dès aujourd'hui en Iran.
Oui, c'est la présidentielle, scrutin pour désigner le successeur du modéré Hassan Rouhani. Il a fait deux mandats de 4 ans et n'est donc pas rééligible. Les bureaux de vote ont ouvert il y a maintenant 35 minutes. On va rejoindre immédiatement l'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini. C'est un candidat conservateur qui semble avoir un boulevard devant lui.
Oui, Ebrahim Raisi a vu trois de ses concurrents se désister depuis avant-hier, lui laissant quasiment le champ libre, encore plus libre, j'ai envie de dire, car le camp sortant, les modérés, n'ont pas été autorisés à concourir pour cette élection présidentielle avec plus de 600 candidatures invalidées. Le guide suprême garde la haute main sur ce scrutin. Non seulement il donne des consignes sur qui peut se présenter ou non, mais il décide aussi des thèmes de campagne. Il a notamment demandé à tous les concurrents de ne parler que d'économie. C'est la préoccupation. Passion première des Iraniens qui voient les prix s'envoler semaine après semaine sous l'effet des sanctions internationales. C'est évidemment la question qui est en filigrane du scrutin. Le nouveau président élu pour 4 ans sera-t-il en mesure de convaincre les puissances occidentales de lever ces sanctions pour offrir un bol d'air à la population? C'est vraisemblablement le but des conservateurs. Reste à savoir si ce scrutin leur offrira la légitimité. Une forte abstention est attendue. C'est pour ça que les organisateurs ont demandé à ce que les bureaux de vote soit ouvert de 7h à 2h du matin.
Jean-Sébastien Soldaini en ligne de Téhéran pour Europe 1.
Revenons en France avec cette journée de la gastronomie durable aujourd'hui.
Oui, Europe 1 a choisi de vous raconter comment les produits locaux sont en train de supplanter des ingrédients parmi les plus prestigieux à la carte des restaurants, au point que le combat de certains chefs étoilés n'est plus dans l'assiette, mais dans le pré d'à côté. Reportage à Vendôme dans le Loir-et-Cher, Pierre Herbulot.
Dans un pré, à l'ombre d'un arbre fruitier, une petite vache à la robe marron clair, la plus grande fierté du chef Guillaume Foucault.
Alors cette vache, en fait, qui habitait nos territoires, a disparu dans une époque où il y a eu un schéma de sélection qui avait en fait des intérêts qui étaient très différents de ceux d'aujourd'hui, en fait.
La productivité plus que la qualité, un non-sens pour cet amoureux du perche qui s'est fixé une mission, sauver celle que l'on appelait il y a quelques décennies la percheronne.
Je pense que c'est intéressant de pouvoir se dire que notre gastronomie, elle a été ce qu'elle est, certes par rapport au talent des chefs, mais aussi, et on l'oublie peut-être souvent, par la diversité, la grande diversité des terroirs que l'on peut avoir en France et de ses richesses.
Pour faire renaître la race, le chef a mis la main sur de vieilles cartes postales et archives qui décrivent la percheronne. Il a sélectionné les bovins les plus proches physiquement, les a fait s'accoupler tout en les nourrissant avec des pommes et des poires de variété locale. À chaque nouvelle génération de vaches, le code génétique se rapproche un peu plus de celui de la race éteinte. Une démarche aujourd'hui récompensée par la nouvelle étoile verte du guide Michelin, explique son patron Gwendal Poulenec.
Ça peut aller de la valorisation de leur territoire, de leurs producteurs, pêcheurs, maraîchers, éleveurs. Et c'est aussi une occasion de remettre en avant ces découvertes ou ces redécouvertes d'un patrimoine agricole.
En plus de cette distinction, c'est désormais un label que vise le chef Guillaume Foucault, une AOP, voire même une reconnaissance officielle de race, la vitrine d'un terroir qui pourrait même doper le tourisme, comme la célèbre vache de l'Aubrac.
Pierre Herbulot pour ce reportage à Vendôme.
5h09, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le journal des sports avec à la une l'Euro de football. Ça y est, on est à J-1, c'est demain, Hongrie-France.
Oui, ça va vite, hein. Les Bleus se sont entraînés à huis clos hier, ce qui veut dire que Didier Deschamps ne veut pas trop en dévoiler. Même si la Hongrie semble à la portée de l'équipe de France pour ce deuxième match, et bien pour Giroud, rien n'est encore fait dans la course à la qualification. Cette rencontre doit être jouée par la même équipe, celle qui a affronté et battu la Mannschaft.
Il n'y a rien de fait. Un coureur dans le Tour de France, vous ne lui dites pas à la 10e étape, arrête de pédaler. Il a le deuxième match, il a fait une équipe, elle a bien rendu puisqu'elle a gagné le match contre un adversaire évidemment très décidé et talenteux. L'Allemagne était talenteuse. Donc, on continue. Et la Hongrie, ça va être très difficile.
Notre consultant Giroud qui sait quand même que Didier Deschamps aime bien procéder en général à quelques petits changements.
Alors, est-ce que ça peut venir de l'attaque des Bleus?
Qui n'a pas montré tout son potentiel jusqu'à présent. On attend toujours de voir frapper fort le nouveau trio, Griezmann, Mbappé, Benzema. Le joueur du Real très attendu et qui sera vite au rendez-vous, nous rassure Lucas Hernandez.
C'est un excellent joueur, c'est une excellente personne, quelqu'un de très proche. Je l'admire comme footballeur, mais aussi comme personne. c'est quelqu'un qui nous fait, qui va nous faire du bien pendant la compétition. Et ouais, je suis très content qu'il soit avec nous et qu'il fasse partie de ce groupe.
Lucas Hernandez avec Cyril de la Morinerie. Demain, donc, place au match face à la Hongrie. C'est à 15h. Hier soir, les Pays-Bas se sont qualifiés pour les huitièmes en battant l'Autriche 2-0. La Belgique s'est imposée 2-1 face au Danemark, est également qualifiée.
Dans le reste de l'actualité, le forfait de Rafael Nadal pour Wimbledon.
Et pour les JO de Tokyo, comme on ne sait pas encore quel est l'état de forme de Roger Federer, on imagine que tout cela va faire les affaires de Novak Djokovic, toujours en quête d'un 20e titre du Grand Chelem. Pour nous en parler, Sébastien Grosjean, le capitaine de France de Coupe Davis.
Il n'aura pas de tournoi de préparation, je pense, pour Wimbledon. Il sera peut-être favori encore à Wim. Il se rapproche. Cette course vraiment au titre du Grand Chelem est passionnante. Hein. Tout simplement entre ces trois monstres, légendes de notre sport. Ça va encore parler s'ils arrivent à l'US et qu'ils sont tous les trois à 20.
Sébastien Grosjean avec Axel May. Dominique Thiem est également forfait pour les Jeux de Tokyo. Naomi Osaka, en revanche, sera bien là de retour devant son public. En revanche, elle fait l'impasse sur le tournoi de Wimbledon. Et puis d'un mot, l'Euro de basket avec cette première victoire des Françaises. C'était hier soir face à la Croatie. Le score est assez éloquent. 105-63. Belle victoire des Bleus qui affrontent ce soir la République tchèque.
Voilà, une bonne entrée en matière.
Bonne entrée en matière.
Très clair. Merci Léanec Monnier. À tout à l'heure. Et on va retrouver Thierry Léger pour le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 209 Hippipi Pourra. Ne courant qu'à bon escient, ce fils du crack étalon Gottsmalswood reste sur trois bonnes performances à Vincennes, une piste qui correspond parfaitement bien à ses réelles aptitudes. Dur et tenace, mais surtout capable d'adopter toutes les stratégies de course, ce trotteur en plein épanouissement trouve ici une opposition largement à sa portée pour une nouvelle fois s'imposer. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 9, Hippipi Pourra.
Merci Thierry Léger et on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure. Europe 1. Bienvenue à vous sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Il est 5h12. Si vous vous réveillez, le 5-7 continue en direct. On va explorer les journaux du jour. Ambline, qu'est-ce que vous avez lu dans la presse ce matin?
Il n'y a pas que Miss France. Hein. Dans la vie, il y a aussi Miss Small Beauty ou Miss Ronde, des concours dits de beauté.
Miss Small Beauty?
Oui, on va en parler. Des concours de beauté alternatifs qui se multiplient en France.
Les Miss Alternatives, très bien. Bon, moi, je vais vous raconter que la viande végétale arrive sur le barbecue cet été. Allez, bon courage. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h15 sur Europe 1, très bon réveil à vous. L'actualité ce matin sur Europe 1, c'est cette réquisition. Un an de prison, dont 6 mois ferme, requis contre Nicolas Sarkozy au procès Big Malion. 14 prévenus au total attendent leur jugement dans cette affaire de fausse facture destinée à masquer une partie des dépenses de la campagne présidentielle de 2012. Le nombre de malades du Covid dans les services de soins critiques est repassé hier sous la barre des 1800 patients. Signe de cette amélioration sanitaire, la levée du plan blanc dans les hôpitaux de l'assistance publique parisienne. Il était en vigueur depuis le mois d'octobre. Et puis de nouvelles frappes israéliennes cette nuit sur la bande de Gaza en réponse à l'envoi d'engins incendiaires depuis l'enclave palestinienne vers Israël. Il s'agit du deuxième accrochage entre le Hamas et l'armée israélienne depuis le cessez-le-feu d'il y a un peu moins d'un mois.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec autour de moi Amblin Roche et Martin Lange. On commence par les unes de vos journaux et J-2 avant les élections régionales. Ce sera dimanche et plusieurs de vos quotidiens en font leur dossier du jour. Les enjeux dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire dans la Voie du Nord. Demandez les programmes dans la Provence. Que pèse la région? Interroge la montagne. Et pour la Croix, c'est le grand flou cette élection. Et pour l'opinion, le tour de chauffe de la présidentielle. Et un sujet est particulièrement développé ce matin. C'est celui des éoliennes, les éoliennes qui agitent la campagne, écrit aujourd'hui en France, et qui électrisent le débat, un débat pollué, titre à la une Libération. L'économie aussi, dans vos journaux ce matin, il y a un SOS à la une de Nice ce matin, SOS matières premières dans le bâtiment, la pénurie bride la reprise. Et dans l'Alsace et les DNA, ce sont les restaurateurs qui manquent de bras. Enfin, un titre en guise d'avertissement pour les automobilistes, et on en parlait ici même il y a quelques jours. Rouler va vous coûter plus cher. Les prix de l'essence flambent avant l'été, c'est-à-dire dans le Dauphiné libéré. Et voici donc les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin et Amblin, donc des Miss
alternatives. Des Miss
alternatives.
Des Miss qui ont été élues Miss Small Beauty, Miss Petit Univers. Universe, Miss Ronde, Miss Cougar aussi.
Miss, Cougar,
Miss Tout le Monde, hein, comme Monsieur et Madame Tout le Monde, Miss Tout le Monde, comme le
Miss
titre.
Miss Small Beauty, c'est quoi? C'est des enfants?
Le magazine Society. Non.
Ou c'est des petites tailles.
Ce sont le critère, mesurer moins de 1m70.
Voilà. Moins d'un mètre 70.
Voilà. Moins d'un mètre 70. Comme Romane, qui explique avoir participé à ce concours Miss Small Beauty pour reprendre confiance en elle après avoir été victime de harcèlement scolaire. Dans le concours Miss Ronde, c'est Anaïs, étudiante en géographie, qui témoigne. Et elle dit s'être lancée un défi après avoir également perdu confiance en elle à l'école pour postuler. Alors là, un seul critère, une taille 44 minimum. Devenir Miss, finalement, c'est prendre sa revanche sur des blessures passées. Hein, on comprend avec ces deux exemples. Et puis, c'est un pied de nez aussi, il faut le dire, adressé au traditionnel concours Miss France. Et ces stéréotypes, les candidates mesurent en général 1m75 et elles pèsent 55 kilos. Elles sont très énervantes. Pour rappel, nous dit l'INSEE, la française moyenne mesure 1m65 et elle pèse 66 kilos.
Ah oui,
voilà.
Et comme on n'est pas sur une représentativité totale.
Non, non, mais c'est en même temps, on le savait, hein, on le voit à la télé, très bien. Alors comme celui de Miss France, ces concours alternatifs ne trouvent pas grâce aux yeux de la présidente de l'association Regard de Femmes, ni aux yeux de l'association française du féminisme, qui s'oppose à l'idée de mettre en compétition des femmes sur des critères physiques. Alors une ethnologue interrogée par le magazine est plus mesurée. Ces concours Miss Small Beauty ou Miss Ronde sont aussi un lieu, je cite, de revendication identitaire. Et elle rappelle que le physique n'est jamais le seul critère pris en compte. Hein. Chaque postulante soutient une association.
Ouais.
Elles défendent leur combat. Ah, bah si. Elles ont droit aussi à l'épreuve de culture générale. Hein. Ça, c'est uniforme. Et puis, ce que mettent en avant toutes ces Miss, c'est qu'elles apprennent à prendre la parole en public. Elles affirment leur position. Et puis, elles ont l'opportunité de faire ça, surtout. Pour Anaïs, le concours Miss Ronde 2021 qu'elle a remporté lui a aussi donné l'opportunité de faire des défilés, des shootings. Et les photos l'ont aidée à accepter son image. Voilà, chacune sa Miss. Chacun sa, son mister. C'est dans le magazine Society.
Ah oui, son mister, oui, ça y est, on ne parle pas des mister.
Mais... Non, on ne parle pas assez des mister. Je suis d'accord. On va envoyer un message à Society pour faire un reportage.
Vous n'avez pas parlé des Miss Camping, mais il y aura des Miss Camping aussi cet été.
Ah oui,
forcément.
Mais ça, c'est traditionnel. Oui, oui. Alors là, par contre, il n'y a pas de critères tout court. Hein. Non, tout le monde peut y aller. Mais c'est ça qui est bien.
Voilà, on arrêtera là les Miss T-shirts mouillés et autres.
Voilà, il y en a
autre,
tellement.
Autre sujet, totalement autre chose, quoi, qu'on va rester dans l'été, puisque la viande végétale, je ne sais pas si vous connaissez la viande végétale, et le Figaro nous dit que ça y est, elle s'immisce dans nos plats et qu'on va la voir au menu cet été sur le barbecue, à côté des brochettes, des merguez et des chipots. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, ce sont plutôt des substituts à la viande. D'ailleurs, les puristes diront que ça n'a aucun sens d'appeler ça de la viande. Des saucisses à base de pois, des steaks de soja. Et les comportements changent et changent vite. Hein. Préoccupation environnementale. Il est estimé que la consommation de viande, de vraie viande, va chuter de 3 à 5% par an d'ici à 2030, donc au profit en partie de ces substituts. C'est un mouvement de fond, analyse Pascal Ebel du Crédoc dans cet article du Figaro. Ça pourrait revenir à diviser notre consommation par deux en l'espace de 10 ans. Consommation de viande divisée par deux en 10 ans. Alors, il faudra trouver des alternatives pour compenser les protéines qui sont contenues dans la viande. Et donc, on les trouve notamment dans le soja, dans les légumineuses, les lentilles, les pois qui peuvent servir à fabriquer ces substituts. Manger moins de viande, c'est réduire son impact sur l'environnement. Ça, c'est la première explication de ces nouveaux comportements. Il y a aussi la santé, des foyers de plus en plus soucieux de la qualité de leur alimentation. Manger mieux, ça peut vouloir dire acheter un peu moins de viande, mais acheter de la meilleure viande quand on en achète. De la viande française, de la viande bio, par exemple. Enfin, il y a aussi le bien-être animal et l'effet générationnel qui, là, semble colossal. Dans les études du Crédoc, 12% des jeunes se disent végétariens.
C'est de plus, ça va être de plus en plus.
Il y en a de plus en plus.
Ouais, bien sûr.
Plus on est jeune, plus on a des chances d'être végétarien. Vous mangez encore de la viande.
Oui, mais je ne penserai pas à mettre des lentilles sur mon barbecue, mais ça, c'est très personnel.
Non, une saucisse de petits pois. Non.
Bah non, je vais, à la limite, je vais faire des petits pois à côté.
mais
oui.
Enfin voilà,
oui.
Enfin bon, je sais pas.
Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on mange on essaie de manger de la viande de meilleure qualité et moins.
Mais c'est indispensable, ouais, même.
Voilà, c'est ça.
S'il faut, que ça change, ça, effectivement.
Voilà, et en achetant notamment du français, absolument. Martin, on termine avec vous.
Oui, avec le jackpot du jour pour ce Canadien. L'an dernier, il a déniché un tableau dans un centre de dons de l'Ontario, l'équivalent d'un centre Emmaüs. Un tableau acheté donc 5 $ canadiens, l'équivalent de 3,40 €. Rien de bien excessif pour une croûte, me direz-vous. Sauf que cette croûte, c'est en fait une œuvre de David Bowie, qui devrait être revendue.
Ah bah, il va être content qu'on a croûte.
Une œuvre qui devrait être revendue dans les jours qui viennent, écoutez bien, plusieurs dizaines de milliers de dollars, ça fait une belle plus-value. Alors ce portrait intitulé Diède fait partie d'une série de 47 œuvres peintes par Bowie à la fin des années 90. Au dos de la toile, on peut voir la signature distinctive du chanteur, authentifiée par un certain Andy Peters, un homme qui collectionne les autographes de Bowie depuis 1978, ça vous donne une idée de l'expertise. Ah oui. On distingue également, toujours au dos du tableau, la marque d'une boutique d'encadrement londonienne qui avait l'habitude de travailler avec le caméléon de la pop. Bref, pas de doute, on a bien affaire à une œuvre de Bowie.
5 $, c'est l'affaire du siècle. Comment ce tableau de Bowie a pu se retrouver dans un Emmaüs comme ça?
Eh ben là, c'est très flou. Selon un expert, sa dernière trace date du début des années 2000. Il était à l'époque en vente sur un site dédié aux œuvres de Bowie. Mais depuis, plus rien. Il avait complètement disparu. Un portrait dont on ne sait pas non plus qui est le modèle. Bowie avait l'habitude de peindre ses amis, sa famille, lui-même parfois. Mais il n'identifiait jamais ses sujets sur le tableau en question. Il est même impossible de distinguer si c'est un homme ou une femme. Une œuvre pleine de mystère, donc, que son auteur a emporté dans la tombe, mais qui séduit les collectionneurs. Dernier enchaîneur en date, 40 000 $ pour un tableau acheté, on le rappelle, 5 $. Si vous êtes intéressé, Sébastien, vous pouvez faire une offre jusqu'au 24 juin. Un tableau de David Bowie déniché dans un magasin caritatif va s'envoler aux enchères, c'est à lire sur le site de Slate.
On va poster sur Twitter ce tableau, qui est une sorte de visage un peu stylisé. Alors, effectivement, on ne peut pas tellement distinguer qui c'est. Le visage n'est pas complètement terminé, c'est assez stylisé, ouais. On va dire.
Mais c'est assez joli, C'est assez joli. Bon. Pour 5 $, j'aurais...
Pour 5 $, on prend.
40 000, peut-être pas.
C'est ça. Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour. 5h24.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes au marché de Rungis à la veille de ce week-end, au pavillon des fruits et légumes pour les doigts dans l'assiette. Bonjour Boris Richeux.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes le directeur général de Bratigny, donc les fruits et légumes. Comment ça va ce matin? Du boulot là, quand c'est vendredi j'imagine.
Il y a du boulot, on a eu une très belle semaine, bon, même s'il y a un petit peu plus et que les températures ont descendu, on s'attend à une grosse journée aujourd'hui.
Avec les fruits d'été qui commencent à arriver, là, ça y est, on les voit.
On a reçu les premières pêches et nectarines françaises. Aujourd'hui, elles viennent d'arriver.
Ah, ça y est. Ça veut dire qu'on va les trouver ce week-end.
On les trouvera ce week-end et on a une très belle saison cette année avec une très belle gustativité.
Est-ce qu'elles seront chères? On a beaucoup annoncé des fruits d'été chers cette année parce que rares à cause des épisodes de gel qu'on a connus.
Écoutez, c'est encore difficile de savoir exactement. C'est sûr que sur certains fruits à noyaux, on a assisté à une légère hausse de prix. Maintenant, ça reste quand même très raisonnable par rapport à la forte perte qu'a connue l'agriculture française ces derniers mois.
Donc il y a quand même de l'offre là, il y a du stock.
Il y a de l'offre, il y a du stock, et en particulier sur la pêche nectarine, parce que c'est des fruits qui sont moins précoces sur la saison que la cerise ou l'abricot, donc forcément moins touchés par le gel.
Ah d'accord, ils ont été peut-être un peu moins touchés que les abricots. C'est vrai qu'en ce moment, les abricots, on en voit, ils sont quand même, quand c'est des Français, assez chers.
Ils sont un petit peu chers. Maintenant, il va falloir les déguster très vite parce que la saison va se terminer très très rapidement.
Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, les pêches, les nectarines, alors plutôt pêche blanche, plutôt pêche jaune, qu'est-ce que vous conseillez et comment on les choisit?
Alors moi, mon goût personnel, c'est la pêche. Maintenant, il faut être honnête, il y a un vrai retournement de consommation depuis quelques années. Et une nectarine qui est de plus en plus consommée au détriment de la pêche.
Ah,
alors
oui, d'accord.
Pourquoi? Sûrement par rapport à la texture de la peau de la pêche, qui a priori est un frein maintenant pour les jeunes consommateurs. Moi, je vais vous donner un conseil, c'est celui que faisait ma mère quand j'étais enfant. Elle m'a toujours épluché ma peau de pêche, et je vous promets qu'une pêche sans peau, c'est juste un délice absolu. Quand elle est bien mûre, bien entendu.
Ah oui, c'est ça. Après, ça s'abîme plus vite, c'est plus fragile. C'est vrai que la nectarine, c'est peut-être, ça peut se manger sans éplucher. C'est pour ça, peut-être que c'est plus perçu comme étant plus pratique, peut-être, je ne sais pas.
C'est ça, c'est le côté pratique. Et puis bon, il ne faut pas oublier, le premier nom sur lequel on a connu la pêche en Europe, son nom, c'était la pomme de Perse. Quand Alexandre le Grand l'a ramené, c'est comme ça qu'on la qualifiait. Donc forcément, la nectarine a un côté un peu plus angilovant, un peu plus sympathique. On la rince, on la croque. C'est généralement plein de parfums aussi. C'est super sympa.
Et la pêche, donc vous, c'est plutôt vraiment la pêche blanche?
Moi, c'est la pêche blanche. Mon goût personnel, c'est ouais. la pêche blanche. Après, honnêtement, sur les deux, c'est vraiment une question de goût. Parce qu'on a souvent dit que la pêche blanche est plus gustative que la jaune. En réalité, non, pas avec les variétés modernes, pas avec ce qu'on a aujourd'hui dans les champs français.
Bon, ben voilà, on va se faire plaisir avec les fruits d'été qui arrivent. En tout cas, les pêches françaises arrivent donc sur les étals. Il faut quand même regarder l'origine. Et on vous remercie, Boris Richaud. On vous retrouvera très vite dans les doigts dans l'assiette du côté de Rungis. À bientôt.
Merci Sébastien, au revoir.
Bon week-end à vous. 5h27 sur Europe 1. Très bon réveil. And now that I'm sober, my temperature's a little colder. I see it clearly now, only fair for you. 'Cause I was young, dumb, and broken. How it being sober, my hands are shaking and the nights are lonely. I put my body and my soul through hell for you. Why does it hurt that it's all? I've been drunk for 3 and 15 days. How that perfume. Kimberly Rose Mills, de son vrai nom, elle est d'origine anglaise et ghanéenne. Sober, c'est le nouveau single extrait de son album Out, qui est sorti en mars dernier. 5h29, on va retrouver Laurent Cabrol pour la météo. Laurent, ça y est, on en sort, c'est la fin des orages?
Vous avez raison, les orages sont en train de se disséminer sur les régions de la moitié nord et ils se concentrent maintenant sur la Normandie, sur la région parisienne, sur le nord, le Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne. En fait, ce sont des régions qui seront concernées tout au long de la journée, hein, surtout cet après-midi et ce soir, et il y aura quand même des orages assez violents. Sur les régions de la moitié sud, ce sera plus calme, plus serein, mais enfin, rien d'excessif. Hein. Il y a encore pas mal de nuages et surtout du vent. Les températures sont des températures en baisse pour la plupart. 20 degrés à Rennes cet après-midi, midi, 23 à Biarritz, vous voyez que ça baisse bien, 26 à Bordeaux, à Paris et à Lille 27 degrés au lieu de 30 hier, 30 degrés à Marseille, 32 à Bourg-en-Bresse, à Besançon et à Nancy, et nous atteindrons toujours à Strasbourg, c'est la ville la plus chaude, et ce sera encore la ville la plus chaude, 34 degrés cet après-midi.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Vous êtes sur Europe 1, très bon réveil, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Si le gouvernement cherche une discothèque test, je lui conseille de trouver une prison avec un quartier de haute sécurité.
Les professionnels du monde de la nuit très remontés, ils jugent intenables les pistes évoquées pour une réouverture prochaine des discothèques entre passe sanitaire et masque pour danser. Le détail dès le début de ce journal. La campagne pour les élections régionales, dernier jour, reportage en PACA où le Rassemblement National espère l'emporter. Marine Le Pen était sur place hier. Et puis, c'est un des plus grands festivals de métal en Europe. Annulé l'an dernier, le Hellfest revit cette année. Mais chacun à la maison.
Après le journal, faut-il un front républicain pour faire barrage au Rassemblement national en région PACA ? Mon invité risque bien de devoir jouer les arbitres dans cette région la plus scrutée de France. Dimanche, le candidat de la gauche et des écologistes, Jean-Laurent Felizia, est mon invité dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils ont rendez-vous lundi avec Emmanuel Macron. Les professionnels de la nuit évoqueront un protocole de réouverture des discothèques, seul établissement à n'avoir jamais rouvert depuis le début de la crise en mars 2020.
Mais pour pouvoir accueillir à nouveau du public, peut-être dès cet été, les conditions s'annoncent extrêmement strictes. Angèle Le Châtelier, que sait-on déjà de ce qui se profile ?
Eh bien, le plus probable, c'est que l'on soit obligé de présenter un pass sanitaire avant d'entrer en boîte de nuit. Mais pour les professionnels du secteur, c'est utopique. Personne ne viendra, nous disent-ils. Déjà parce que ce sont surtout les jeunes qui vont dans des clubs et seulement 8% des 18-29 ans sont totalement vaccinés. Impossible donc pour les autres d'aller danser ou déboter. Ils devront prévoir de faire un test antigénique avant leur soirée ou d'aller dans d'autres lieux festifs qui ne sont pas concernés par le pass sanitaire. C'est injuste donc pour Patrick Malves, président du syndicat des discothèques.
Donc on va pouvoir continuer à danser dans les bistrots, dans les restaurants ambiance musicale, faire la discothèque qui ne dit pas son nom, dans les clubs de plage de l'été, etc. et pas dans les discothèques. Il faut arrêter de se moquer du monde.
Autre contrainte, celle du masque, il serait obligatoire pour danser. Et puis pour consommer, il faudra être assis, interdiction aussi d'aller dans les fumoirs qui seront fermés. Pour Thierry Fontaine, qui s'occupe de la branche nuit au syndicat hôtelier Lumi, eh bien c'est intenable.
Si le gouvernement cherche une discothèque test, je lui conseille de trouver une prison avec un quartier de haute sécurité.
Enfin reste la question de la jauge. Elle serait limitée à 65% en juillet, puis 85% en août.
Autre considération sanitaire, l'appel à la vaccination des personnels soignants, notamment en EHPAD. Emmanuel Macron a appelé à la mobilisation générale. Aujourd'hui, selon les estimations de Santé publique France, 42% seulement seraient totalement vaccinés. La menace d'une obligation vaccinale les concernant a été brandie hier par le ministre de la Santé.
La politique, et c'est aujourd'hui le dernier jour de campagne en vue du premier tour des élections départementales et régionales dimanche.
Le Rassemblement national parviendra-t-il à s'imposer dans une région ? Ce sera l'un des enjeux de ce scrutin. Dans le viseur, notamment la région PACA, où Thierry Mariani a été donné gagnant par plusieurs sondages. Hier, le candidat du RN a reçu le soutien de la patronne du parti, Marine Le Pen. Frédéric Michel les a suivis pour Europe 1.
Un petit document pour dimanche.
Sur le marché de Sifour-les-Plages, tract à la main, Marine Le Pen et Thierry Mariani déambulent au milieu des étals.
Il faut absolument que tout le monde se mobilise.
En terrain conquis.
On a besoin de vous.
Merci beaucoup. Merci.
Ici comme ailleurs. Et à dimanche ?
Les gens sont prêts, j'espère. Et de toute façon, on a tout essayé. À Béziers, ça va très bien. À Fréjus, ça se passe très bien. Pourquoi ça ne se passerait pas ici ?
Tous les sondages et enquêtes d'opinion sont favorables aux candidats de la droite populaire et du RN. L'heure est donc à la mobilisation. Thierry Mariani.
Notre message aux électeurs de cette région, il est simple. Il est de dire que cette fois, votre vote peut tout changer.
Aux dernières élections régionales, Marion Maréchal Le Pen, alors candidate, était arrivée en seconde position. Aujourd'hui, les sympathisants RN croient l'alternance possible.
Marion avait attaqué, là il faut finaliser. Monsieur Mariani est tout à fait au fait de tout ce qu'il nous faut, donc on l'attend, on les attend. Et puis, dans moins d'un an, ce sera mieux encore.
En ligne de mire, évidemment, la présidentielle. Toulon, Frédéric Michel, Europe 1.
Et on va continuer de parler de cette région provençale Côte d'Azur juste après le journal, donc avec le candidat de la gauche et des écologistes Jean-Laurent Felizia.
Élection aussi aujourd'hui en Iran. Les bureaux de vote pour la présidentielle ont déjà ouvert un scrutin qui devrait consacrer l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi.
5h35, le réquisitoire hier dans le procès Big Malion, une peine de 6 mois de prison ferme demandée à l'encontre de Nicolas Sarkozy.
Pour financement illégal de campagne électorale, l'ancien chef de l'État dont l'attitude au cours de ce procès a été dénoncée hier par les deux représentants du parquet, Chloé Triomphe.
Oui, c'est peu dire que les deux procureurs n'ont guère apprécié le choix de l'ancien chef de l'État de n'assister qu'à une seule audience, celle de son interrogatoire. Pour les magistrats, cette attitude signe une désinvolture vis-à-vis de ses coprévenus, une manière de se placer hors de la mêlée et de ne pas se considérer comme un justiciable comme les autres. Les mots sont sévères et la démonstration sans concession. Ils reprochent à Nicolas Sarkozy, qui n'est pas renvoyé pour fraude mais pour financement illégal de sa campagne, d'avoir sciemment ignoré les alertes des experts comptables sur le risque risque de dépassement des plafonds de dépenses et d'avoir, bien qu'il s'en défende, bel et bien mené une campagne en or massif, avec à la clé un dépassement de plus de 22 millions d'euros du plafond autorisé. Et à partir de là, vogue la galère, ironise l'un des procureurs, quand la seconde ose une comparaison avec le sport de haut niveau, où la victoire se joue à quelques millimètres. En sport, dit-elle, la limite c'est le dopage. Dans une campagne, c'est le financement illégal. Ils ont donc requis le maximum autorisé, soit un an de prison, assorti de 6 mois ferme à l'encontre de Nicolas Sarkozy.
Récit d'audience signé Chloé Triomphe pour Europe 1. Dans le procès de l'assassinat du policier Xavier Jugelet sur les Champs-Elysées en 2017, condamnation hier du principal accusé, 10 ans de prison assorti d'une période de sûreté des deux tiers à l'encontre de cet homme qui avait fourni la Kalachnikov au tireur.
Direction à présent Clisson en Loire-Atlantique, c'est là que se tient chaque année le Hellfest, l'un des plus grands festivals de métal d'Europe, avec une édition cette année à distance.
Le Hellfest from home, autrement dit le Hellfest à la maison, une édition diffusée en ligne à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, mais enregistrée dans les conditions du direct, comme en témoigne le correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
Pour Twiggy, chef de la production au Hellfest, la course contre la montre a pris fin mi-mai. Lorsqu'en pleine crise Covid, les 9 groupes invités ont enfin pu enregistrer leur concert directement sur scène.
Salut Clisson.
Pour les Français, pas de soucis logistiques. Mais pour d'autres, comme les Ukrainiens de Ginger, il a fallu notamment s'isoler une semaine complète avant leur show d'une heure et demie. Cela peut paraître démesuré, mais pour la formation, retrouver la scène valait bien ce sacrifice.
Spending 7 days in quarantine.
Pour nous, effectivement, on a une quarantaine de 7 jours, mais c'est comme des camps de vacances pour voyager... Jusqu'à Clisson, on est arrivé à l'aéroport. Il y a eu quelques papiers administratifs à remplir auprès des ministères étrangers, Ukraine, des ambassades. Pas de problème plus que ça.
Pas de problème non plus de jouer devant personne, même si Laura Cox l'avoue, c'est un peu déstabilisant.
Bon, on était tout seul au milieu de nulle part. C'est plus dur parce que le public, l'énergie te porte. Là, il faut se porter tout seul en fait. Donc je m'imaginais avec le public devant moi en train de passer une bonne soirée.
Un public qui pourra donc voir gratuitement ces 9 shows inédits du 17 au 20 juin sur Arte Concert.
Et pour l'an prochain, le festival verra double, 2 week-ends de concerts au lieu d'un, avec d'immenses stars, parmi lesquels Metallica, Deep Purple ou encore Scorpion.
Le journal signé Marion Calais, on va reparler de ce Hellfest tout à l'heure, vous disiez à la maison. Mon invitée inattendue, elle adore mettre du métal comme ça à la maison en faisant le ménage. Elle nous racontera ça tout à l'heure. Vous la connaissez comme romancière. Elle sera avec nous à 6h15. À tout à l'heure. Allez, on passe aux courses avec vous Thierry Léger. Quels sont vos pronostics du jour pour le Quintet ?
C'est sur l'hippodrome de Vincennes en semi-nocturne que se disputera ce quintet, une course européenne au trot attelé qui réunira 14 chevaux âgés de 7 à 9 ans sur la distance de 2700 mètres. Irréprochable depuis novembre 2019, en n'ayant jamais terminé plus loin qu'à la 5e place et ce en 17 tentatives, Domingo Della, le numéro 4, mérite ici un très large crédit. On lui opposera Elena Di Quattro, le numéro 1, la moins riche, mais certainement pas la moins douée, comme le prouve son taux de réussite supérieur à 50% dans cette catégorie des quintets, avec Equinox Giel, le numéro 9, avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. Ensuite, je vous recommande les numéros 14 Dacha et 12 Donna Viva, deux juments fiables, bien engagés au plafond des gains, mais aussi Écho de Champlecy, le numéro 5, au summum de sa condition physique, Dixit son entourage. Enfin, les numéros 11 Écureuil Génilou et 10 Diva du Granit compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, As, 9, 14, 12, 5, 11 et 10.
Merci à vous Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h20, c'est la région qui sera donc la plus scrutée dimanche pour ces élections régionales. Dernier jour de campagne aujourd'hui et nous sommes dans cette région, la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec vous, bonjour Jean-Laurent Felizia.
Bonjour Sébastien Krebs.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le candidat tête de liste du Rassemblement écologiste et social, liste qui rassemble le PS, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes paysagiste. On le sait, c'est la région que le Rassemblement national est en capacité d'emporter avec Thierry Mariani. Que pouvez-vous faire, vous, la gauche, pour éviter ça ?
Écoutez, déjà porter notre projet... au plus loin que nous pourrons dans ces 24 dernières heures de campagne. La campagne a été assez parasitée par les problématiques de sécurité qui ont fait l'objet d'une surmédiatisation au niveau national. Pour autant, nous avons des projets et nous les avons portés au-devant des électrices et des électeurs sur tout l'ensemble de cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le dernier sondage en date opéré par BVA donne le Rassemblement national assez largement en tête au premier tour avec 42% des intentions de vote devant Renaud Muselier pour les Républicains qui est soutenu par la majorité présidentielle. Il serait à 33%, vous êtes à 16%. Autant dire que la gauche a du mal à exister hein, dans ce scrutin et dans cette région.
Et pour cause, hein, nous avions décidé en 2015 de nous effacer pour opérer à ce fameux front républicain. Et comme nous avions disparu de l'hémicycle régional, sans doute les électeurs et les électrices ont pris l'habitude peut-être de voir la gauche inexistante. Un de mes objectifs a été de réveiller cette gauche qui a autant de légitimité de vivre une région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour des politiques publiques de solidarité sociale et surtout pour la transition écologique. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a un sursaut républicain que j'entends sur tous les territoires que j'ai pu parcourir pendant ces semaines de campagne.
Alors justement, vous parliez de cette situation il y a 6 ans où Christophe Castaner s'était retiré du second tour pour faire barrage au Front National à l'époque et pour donc constituer ce Front Républicain. La situation, elle risque de se répéter cette année si vous êtes qualifié pour le second tour. Est-ce que vous vous retirez ? Est-ce que vous êtes prêt à le faire pour faire barrage au Rassemblement National ?
Aujourd'hui, on ne peut pas projeter ce que seront les résultats d'un premier tour qui, au sortir d'une crise sanitaire, ne préoccupe pas forcément l'esprit des habitantes et habitants de cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a un rapport de force, hein, je dois l'avouer, qui sans doute sera la clé de notre décision au soir du premier tour. Pour autant, j'aimerais bien, ici, dans votre émission matinale, poser la question de savoir si les politiques publiques de Renaud Muselier, de Christian Estrosi, qui pendant 6 ans avaient la possibilité de faire infléchir et progresser le Rassemblement national, à la fois sur le terrain, mais aussi de manière culturelle dans les esprits. Il semblerait que le bilan ne soit pas à la hauteur de cet objectif et que, principalement parce que l'inégalité s'est creusée sur des territoires qui sont fracturés, mais aussi le service public qui est en plein dysfonctionnement, je veux parler notamment du train. Est-ce que la gauche n'a pas tout intérêt à exister dans cette région pour faire reculer le Rassemblement national ?
Jean-Laurent Félizia, si vous êtes troisième et que vous vous maintenez au second tour, vous offrez la région au Rassemblement national. Vous aurez probablement, peut-être, si on en croit les sondages, cette responsabilité. Vous allez être le faiseur de roi.
Oui, j'aime pas cette formule consacrée, d'abord parce qu'il n'y a pas de roi. D'ailleurs, s'il y avait un roi, je crois qu'aujourd'hui, il serait déchu, hein, parce qu'il n'a pas réussi. Et je ne crois pas que Renaud Muselier ait le statut de roi. Hein. Peut-être de monarque constitutionnel, mais en tout cas, ce n'est pas du tout l'idée que je me fais de notre démocratie. Donc, je veux pas que.
En tout cas, vous êtes prêt à prendre vos responsabilités dans ces cas-là et à tout faire pour faire barrage.
Exactement, monsieur Krebs. C'est un peu l'objet de ce scrutin. Aujourd'hui, en pleine crise démocratique et surtout politique, quant à capacité de montrer que le politique a encore un pouvoir pour faire changer le quotidien des Françaises, des Français, de nos habitants dans cette région. Renaud Muselier n'a pas entamé pour quelque politique publique que ce soit la transition écologique. Il a un peu verdi ses politiques. Je dirais qu'avec de la peinture à l'eau, ça ne tient pas longtemps. Donc nous aurons à cœur d'exister dans cette région. Je fais confiance aux électrices et aux électeurs. Je crois qu'ils n'ont pas envie d'être dupés une seconde fois. Et au lieu d'un front républicain, je veux croire à un sursaut républicain.
Un sursaut. Et il faudrait que vous passiez devant et que vous soyez deuxième pour vous maintenir. Jean-Laurent Félizia.
Les sondages ont souvent été démentis, voire déjoués par le passé.
On verra dimanche. Jean-Laurent Félizia, 80 personnalités ont appelé à voter pour Renaud Muselier, des personnalités du monde de la culture. Ça date d'hier. Françoise Nyssen, l'ancienne ministre, l'acteur Charles Berling, Serge Klarsfeld, des patrons de festivals, le président du festival d'Avignon, des directeurs de théâtre. Il y a des personnalités de gauche dans ceux que je viens de citer. Là. Ils ne se tournent pas vers vous. Ils n'y croient plus.
C'est, je dirais, leur choix. Moi, je n'ai pas besoin de stars, en fait. Vous savez, c'est les électrices et les électeurs qui sont les stars du quotidien, qui luttent contre les inégalités sociales, qui attendent des politiques publiques la vraie transition écologique. Et puis, vous verrez ce matin, dans la Marseillaise, c'est près de 250 élus de toutes les communes de ce département, de cette région, pardon, et de ces 6 départements qui nous appuient, qui nous soutiennent et qui ne veulent pas de ce rassemblement national et qui appellent les électrices et les électeurs à manifester leur choix pour un vote des solutions. Donc il y a d'un côté les stars et moi je défends le peuple.
Encore faudra-t-il que les Français se déplacent pour aller voter parce que la grande gagnante de ces régionales, ça risque bien d'être l'abstention. Hein. À peine 36% des Français se disent certains d'aller voter dimanche. Qu'est-ce qui n'a pas pris dans cette campagne ?
Bon, c'est une conjonction de faits. Vous savez, la sortie de la crise sanitaire, tout le monde est occupé aujourd'hui à relancer le mécanisme de son entreprise. Sans doute aussi, il y a aussi une émission de la population, de cette société qui ne croit plus dans des politiques qui apportent un mieux à leur quotidien. On doit remonter la pente et montrer à quel point on doit travailler plus proche des citoyennes et des citoyens. Voilà, c'est le résultat de politique inopérante depuis plusieurs décennies.
9 candidats, 9 têtes de liste dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur dimanche, en plus de Renaud Muselier, de Thierry Mariani, je cite les autres, Jean-Marc Governatori, Valérie Lopi, Noël Chiusiano, Isabelle Bonnet, Hervé Guerrera et Michael Vicenzi. Merci beaucoup Jean-Laurent Felizia. Je rappelle que vous êtes la tête de liste Rassemblement écologiste et social. Bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1.
5h46, sur Europe 1, on va traverser la France à la recherche des belles initiatives. La France bouge. Avec vous, Lénaïque Monnier, où est-ce qu'on va ?
À Fougères, en Ille-et-Vilaine, la mission locale aide les jeunes à partir en vacances. C'est le moment.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs. Europe 1. Sébastien Krebs.
5h48 sur Europe 1. Il y a 81 ans, l'appel du 18 juin. Emmanuel Macron va commémorer le général de Gaulle aujourd'hui. Cérémonie en présence du dernier compagnon de la Libération. Près de 2 ans après la mort de Steve Maillat-Canisso à Nantes, l'enquête a établi qu'il était bien tombé dans la Loire au moment de l'intervention policière au soir de la fête de la musique. Cette charge était destinée à disperser le rassemblement festif. Enfin, après l'Italie, de nouveau qualifiée hier pour les 8e de finale de l'Euro de football. C'est passé pour la Belgique et pour les Pays-Bas.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Lénaïque Monnier, la France bouge et nous allons donc en Ille-et-Vilaine.
Oui, où la mission locale travaille sur l'accès aux vacances des 16-25 ans. Le dispositif s'appelle Bourse Ville Vacances, destiné aux jeunes qui sont domiciliés à Fougères et qui offre un joli coup de pouce de 100 euros en chèque vacances pour partir seul, avec des copains, avec des frères et sœurs, mais sans les parents, puisque le but c'est aussi de gagner en autonomie. Il suffit de donner 4 euros de participation pour l'inscription. Et pour ceux qui suivent également un parcours d'insertion, là c'est 180 euros la dotation, auquel on ajoute un petit sac à dos. Là, c'est financé aussi par le conseil départemental. Il y a une trousse de toilette, un duvet et si on laisse une caution, la mission locale peut aussi prêter du matériel de camping.
Voilà, pour aider les plus modestes à partir en vacances. Au niveau national aussi, il y a des aides qui existent.
Oui, via la CAF. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais la crise sanitaire ayant propulsé les plus jeunes dans la précarité, eh bien, l'Agence nationale pour les chèques vacances a mis en place une aide financière qui est là aussi destinée aux 18-25, sous condition de ressources, un revenu fiscal de moins de 17 000 euros par an, une bourse ou un apprentissage. Le service civique, là, ça colle également. Si jamais vous êtes éligible, eh bien vous avez 10 000 destinations possibles. Mer, montagne ou ville, le montant est passé de 200 à 300 euros à condition de présenter une réservation dans un hôtel, un camping ou autre.
On peut encore s'inscrire s'il est encore temps là.
Oui, il est encore temps. Depuis avril, il y a déjà 4500 jeunes adultes qui se sont inscrits sur la plateforme Départ 18-25. Un peu plus d'un millier de plus qu'en 2020, donc avant la pandémie. À l'avenir, l'agence du chèque vacances espère aider 10 000 jeunes à partir cet été. Donc ça se tente encore, il reste à peu près 5 000 places.
Départ 18-25, on 18-25. Cherche ça sur internet.
Exactement.
Et on trouve toutes ces aides et les réservations
via le site de la CAF.
Possible,
via
le site de la CAF. Et Mike Monnier, merci à vous. 6h-10, on va regarder ce qui anime les réseaux sociaux avec vous, Martin Lange.
Oui Sébastien, et ce matin je vais vous parler d'une nouvelle venue sur la plateforme TikTok. La police nationale qui a lancé son compte hier sur le réseau préféré des ados.
Comme ça avec cette musique.
Exactement, avec cette première vidéo sur un air de hip-hop, et ça paraît étonnant pour la police. On y voit un jeune policier changer d'uniforme et passer dans les différentes directions de l'institution. Police du quotidien, police scientifique, police aux frontières ou encore le RAID. Une façon de montrer la diversité du métier selon la porte-parole de la police.
Voilà, communiquer sur les réseaux sociaux et sur TikTok qui touche les jeunes en particulier. L'objectif c'est quoi ? C'est de recruter ?
Alors oui, mais pas seulement. La police débarque sur TikTok surtout pour moderniser son image et pour garder le contact avec les jeunes, vous le disiez à l'instant, les 15-24 ans, qui représentent plus de 40% des utilisateurs de TikTok en France. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la police investit les réseaux sociaux. Ils sont déjà présents sur Facebook, Twitter et même Snapchat, un autre réseau prisé de la jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas toujours tendre avec la police, parfois même défiante, selon la porte-parole de la police.
Bon alors ok, ils veulent communiquer, TikTok c'est des vidéos, qu'est-ce qu'ils vont mettre sur leur compte ?
Et bien visiblement, si vous regardez la première vidéo vidéos dont je viens de vous passer un extrait sonore. Ce sont des vidéos qui répondent parfaitement au code de TikTok, hein, courtes, rythmées en musique, avec une touche d'humour aussi. Deux personnes vont travailler à plein temps sur ce compte, un community manager et une vidéaste. Les contenus seront positifs, on l'a dit, hein, pour redorer l'image de la police auprès des jeunes. Mais il sera aussi question de faire passer des messages de prévention, notamment sur le binge drinking. Hein. Vous savez, c'est cette tendance qui consiste à boire beaucoup d'alcool dans un laps de temps très resserré, ou encore sur la consommation de gaz hilarant, un vrai fléau pour les jeunes. La police française n'est pas la première à s'inviter sur TikTok. Celle de Los Angeles ou encore la police espagnole y sont depuis plusieurs mois, entraînant parfois des polémiques. Est-ce vraiment le rôle de la police de faire des vidéos drôles sur TikTok? En tout cas, le compte de la police française commence fort. Il est déjà suivi par plus de 6000 personnes en à peine 24 heures.
Voilà, et ça va peut-être prendre encore de l'ampleur. Tous les moyens de communication sont bons pour faire de la com et toucher un maximum de personnes. Martin Lange, qui scrute les réseaux sociaux chaque matin sur Europe 1. Il est 5h52. Et vous avez rendez-vous à 14h avec Christophe Ondelatte pour Ondelatte raconte. L'histoire du jour se joue en 1998 au Luxembourg. Béatrice Vidaror est morte comme dans un roman d'Agatha Christie, empoisonnée au cyanure. Le récit d'Ondelatte raconte donc à 14h sur Europe 1, mais dès maintenant en podcast, disponible sur europe1.fr.
Europe 1.
Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète avec vous dans un instant, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 6h05, notre planète, des solutions positives chaque matin pour changer la donne sur l'environnement avec vous Fanny Agostini ce matin. Alors, ils nous agacent, ils nous réveillent, hein, ils peuvent gâcher nos nuits d'été ce matin. Vous allez quand même, en deux minutes, tenter de nous faire aimer les moustiques.
Oui, je vais vanter ce matin leur qualité. Alors, c'est pas facile quand on sait que le moustique est le plus grand prédateur de l'homme, avec 7 millions de morts par an, loin devant les requins, les lions ou les crocodiles. Mais rappelons déjà que les moustiques tueurs ne sont en fait qu'une minorité. Seuls 6% des 3500 espèces de moustiques se nourrissent de sang humain. Ce chiffre est encore divisible par deux, puisque seules les femelles sont hématophages. Dites-vous bien que chaque moustique que vous croisez n'est pas obligatoirement une bête assoiffée de sang et porteuse de maladies. Je vais même vous prendre par les sentiments en vous disant que si vous aimez le chocolat, vous aimerez forcément les moustiques. C'est une information qui est peu répandue, mais sachez qu'au même titre que les abeilles, les moustiques sont aussi des insectes pollinisateurs. Adeptes des petites fleurs inaccessibles aux gros diptères, les moustiques, avec certaines fourmis, sont les principaux pollinisateurs des cacaoyers. Un monde sans moustiques signifierait donc un monde sans chocolat.
Ah, ça serait triste. Vous vouliez nous dire ce matin que ces moustiques, ils sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire.
Absolument, car ils servent de nourriture à de nombreuses espèces. Sans moustiques, nous observerions un effondrement incroyable du nombre d'oiseaux, de poissons, de reptiles, de mammifères. L'entomologiste américain Bruce Harrison en est même venu à la conclusion que si les moustiques venaient à disparaître, le nombre d'oiseaux chuterait de plus de 50%.
Et alors, ces moustiques sont aussi les alliés de la médecine?
Eh bien oui, afin de faciliter la remontée du sang dans la trompe, les femelles moustiques injectent un anticoagulant particulièrement efficace qui pourrait permettre de développer des traitements plus adaptés aux maladies cardiovasculaires. Le moustique a même permis de créer une seringue dernier cri dont la finesse permet de faire des injections complètement indolores aux patients. Il a presque tout pour lui en fait, ce moustique. De quoi aborder la saison estivale avec un autre regard sur lui.
Ah voilà, la seringue dernier cri qui imite la technique du moustique. Ça, je ne savais pas que ça existait. Hop, tac, voilà, terminé. Fanny Agostini, merci à vous. À lundi, 5h57.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous. Vous êtes sur Europe 1, ravi de vous accompagner au réveil en ce vendredi matin, vendredi 18 juin. On écoute le monde changer et on va écouter ce matin la gastronomie changer avec un enjeu, rendre la cuisine, la restauration plus durable, plus écologique. Et c'est un grand chef qui est mon invité tout à l'heure à 6h40, le chef triplement étoilé Glenn Vielle, installé au Beau-de-Provence. Il a reçu non seulement sa troisième étoile, mais il a aussi reçu un trèfle vert. C'est la nouvelle distinction du guide Michelin qui récompense son engagement écologique. Il va nous expliquer sa démarche et son combat personnel tout à l'heure. D'ici 7h, tous vos rendez-vous habituels, l'innovation du jour, la revue de presse internationale. On ira notamment aux États-Unis où une canicule extrêmement violente frappe le Grand Ouest américain. Rendez-vous compte, 46 degrés à Las Vegas, 47 attendu dans l'Arizona aujourd'hui. Et puis un peu de musique. Avec un anniversaire, 79 ans aujourd'hui pour Paul McCartney. Et nous allons vous raconter sa deuxième carrière après les Beatles, les Wings. Le récit dans la partition d'Omblin Roche, ce sera bien sûr en musique. Et c'est dans 20 minutes à 6h20. Laurent Cabrol, c'est à vous. Où en est-on de ces fameux orages ?
Eh bien, nous allons vivre la fin de la deuxième vague. Alors, nous avons une première vague, une deuxième vague. Il y en a une troisième qui arrive pour le week-end. Donc, si vous aimez ça, vous serez servi, mais on n'aime pas du tout ça. Alors, les pluies fréquentes aujourd'hui pour la Normandie. De plus en plus d'orages sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, et dans une moindre mesure sur la Champagne-Ardenne. Nous aurons une amélioration, car il pleut pas mal ce matin, Poitou-Charentes, Anjou, Ille-et-Vilaine, ça s'améliorera dans l'après-midi. Et puis des régions où les orages sont beaucoup plus isolés, Lorraine, Alsace, en Alsace il n'y en a pas trop d'ailleurs, les Vosges, l'Alsace, la Franche-Comté, le Massif central, la Bourgogne et la région parisienne, nous aurons un temps souvent humide, maussade, orageux quoi. Et puis les éclaircies vont s'imposer beaucoup plus largement dans tout le sud-ouest où il a vraiment tombé hier, la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen. Vous savez tout, les températures maximales entre 22 et 34, alors elles baissent dans la plupart des régions de France. Le seul secteur vraiment, elles sont encore très élevées. Lyon et Strasbourg, comme Grenoble, entre 33 et 34. Mais il ne fera que 27 à Paris, si je puis dire, 30 à Marseille, 24 à Poitiers, 23 à Nantes, 22 à La Rochelle. Vous voyez que ça devient beaucoup plus respirable en général.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.